L'enracinement insidieux des pratiques illibérales des régimes libéraux ne s'explique pas seulement par le terrorisme et les réactions exceptionnalistes des États occidentaux. La tendance à l'acceptation silencieuse de ces pratiques par les sociétés se fonde sur un sentiment d'insécurité qui ne se réduit pas à la terreur. Ce sentiment est aussi l'expression d'une inquiétude plus diffuse, entretenue par la confusion progressive entre les politiques bureaucratiques ordinaires visant les exclus comme les inclus. Les citoyens tendent à être traités comme les étrangers, les consommateurs comme les laissés pour compte, les voyageurs ordinaires comme les migrants. Ce qui renvoie à notre responsabilité individuelle face à ces politiques, comme à celles répondant aux grands événements provoqués par le terrorisme transnational. On ne peut comprendre le rapport des citoyens des sociétés occidentales à la détention des étrangers et leur difficulté à se mobiliser face à des pratiques illibérales comme celles d'Abu Ghraib, de Guantanamo ou de Belmarche, si on ne les relie pas à d'autres pratiques, comme celles, plus quotidiennes, du traitement par leur État des étrangers demandeurs d'asile en attente du règlement de leur dossier, ou des personnes dont le voyage a été interrompu car il leur manque des documents, très rapidement qualifiés d'irréguliers ou d'illégaux par la presse, mais aussi dans les commissariats ou par les procureurs. Si nous ne comprenons pas que la situation vécue par ces étrangers, dans les centres de rétention ou dans les zones d'attente des aéroports, avec notre acceptation implicite, contribue à justifier l'injustifiable, nous perdons de vue une dimension centrale de ces pratiques. Présentées comme exceptionnelles, elles sont bel et bien pensées pour devenir ordinaires. Les jeux politiques sur la criminalisation des migrants, et plus généralement sur l'instrumentalisation des rapports entre terrorisme, étrangers, musulmans, migrants et jeunes citoyens issus de l'immigration, sont en partie responsables de la montée des inquiétudes. Ils donnent un caractère intime à l'inimitié en créant un climat de suspicion selon lequel les membres des organisations clandestines seraient des sans-papiers entrés irrégulièrement, religieux et sans emploi. Alors même que la sociologie des poseurs de bombes révélée par les enquêtes policières relatives aux attentats relevant du terrorisme islamiste en Europe fait ressortir des caractéristiques bien différentes. Entrée régulière, voire naissance en Europe, faible religiosité, mais profond sentiment d'injustice, qualification professionnelle hétéroclite, mais réelle, souvent des emplois tertiaires. Mais, au nom de la lutte antiterroriste, les parlementaires de tous bords acceptent majoritairement sans discuter toutes les mesures restrictives concernant l'immigration irrégulière et régulière, les conditions de regroupement familial et les principes du droit d'asile. C'est évidemment une incitation pour les ministres de l'Intérieur et les polices à accroître par ces mesures leur marge de manœuvre et un encouragement à limiter les contrôles judiciaires qui pèsent sur eux. Il est toujours possible de blâmer les gouvernements ou les parlementaires, mais bien des conversations publiques ou privées attestent que nombre de nos contemporains n'ignorent pas ces dérives et qu'ils les tolèrent, voire les approuvent. Ce cynisme, mêlé d'un certain dégoût de la politique en général, renforce la propension à sacrifier la liberté des autres pour notre propre sécurité. Tant que les mesures répressives semblent ne toucher que des catégories spécifiques ciblées par le contre-terrorisme global, l'émotion est limitée. Elle ne s'exprime que lorsque la répression se manifeste ouvertement dans la vie quotidienne, comme les arrestations par la police dans les écoles françaises d'enfants de sans-papiers aux fins d'expulsion. En témoigne par exemple l'étonnante mobilisation depuis 2006 des parents d'élèves du réseau Éducation sans frontières. Ou lorsque certains groupes privilégiés sont brusquement objets de contrôle parce qu'ils partagent des paramètres avec les populations anormales et qu'ils réalisent ce que la sécurité individuelle a à perdre lorsqu'elle rencontre les impératifs de sécurité nationale. Ils entrevoient alors comment les garanties judiciaires de connaître les raisons de son internement, d'avoir rapidement droit à un avocat et de bénéficier d'un procès qui n'est pas jugé d'avance sont centrales lorsque l'arbitraire peut venir de la police et de l'État. C'est pourquoi les no-fly lists américaines sont de plus en plus contestées. Cela est encore plus flagrant avec les contrôles d'identité policiers et les mécanismes de surveillance privée. Les citoyens ne s'insurgent contre ces dispositifs que lorsqu'ils prennent conscience que les informations qu'ils recueillent peuvent être utilisées des années après leur collecte, dans des contextes sociaux différents et selon des interprétations pour le moins éloignées de leur vécu réel. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les sociétés ayant encore la mémoire de gouvernements dictatoriaux sont les plus réticentes à abandonner leur droit à une certaine opacité à l'égard du regard policier concernant leur activité intime, leur lecture, leur correspondance ou leur déplacement. Reste l'essentiel. L'indifférence au quotidien, voire l'approbation explicite aux nouvelles formes de surveillance, explique la facilité avec laquelle les jeunes des classes populaires, et plus encore des groupes ethniques stigmatisés comme différents, ne sont plus regardés que comme des indésirables dont la société doit se protéger par des mesures de sûreté où le seul rôle de la prison est de les tenir à l'écart, sinon indéfiniment, du moins le plus longtemps possible. Ces comportements structurent, tout autant que les discours du contre-terrorisme et les appels à des dérogations au nom de l'urgence du danger, les normes de ce qui nous semble ou non inadmissible. Réfléchir sur la politique de l'inquiétude revient alors à interroger nos responsabilités, et non plus seulement celles des dirigeants sur les dispositifs d'une gestion de l'insécurité à laquelle nous participons activement et plus volontairement que nous ne voudrions l'admettre.